Chers amis des cellules, bonjour. À l'approche de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, je voulais méditer avec vous sur l'oraison de la messe que nous entendrons ce jour-là. L'oraison, ce sera la prière que le prêtre dira au début de la messe, après le gloire à Dieu, après avoir dit « Prions le Seigneur ». Je vous lis ce texte. Seigneur notre Dieu, dans le cœur de ton Fils, meurtri par nos péchés, tu nous prodigues les trésors infinis de ton amour. Permets qu'en lui rendant l'hommage de notre piété, nous rendions aussi les devoirs d'une juste réparation. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous attacherons à quatre points en particulier. Le premier point, le cœur du Fils. Le deuxième point, le partage des trésors infinis de son amour. Le troisième point, l'hommage. Et le quatrième point, la réparation. Premier point, donc, le cœur du Fils, avec cette expression, dans le cœur de ton Fils, meurtri par nos péchés. Parce que la question se pose, comment est-ce que le cœur du Fils peut-il être meurtri par nos péchés? En effet, si l'on tient que Dieu est parfait, alors Dieu est impassible, c'est-à-dire qu'il ne peut être ni diminué ni augmenté par les circonstances qu'il peut rencontrer. Dieu est de toujours à toujours. Et rien ne diminue sa perfection et sa béatitude, et rien non plus ne l'augmente. Elle est parfaite de toujours à toujours. Alors vous voyez immédiatement que si l'on regarde Dieu simplement sous ce caractère-là de la perfection et de l'impassibilité, on va très vite arriver à une espèce d'indifférence. Or la révélation nous manifeste que notre Dieu n'est pas un Dieu indifférent. La perfection et l'impassibilité de Dieu, le fait qu'il ne soit pas altéré, ne se traduit pas par une indifférence. Au contraire, on nous annonce que notre Dieu est capable d'aimer, et même plus, que notre Dieu est amour, qu'il est la source de tout amour. L'amour bannit l'indifférence. Et c'est ainsi que le cœur de Dieu est meurtri lorsque l'homme, justement, se blesse lui-même d'abord par le péché. C'est-à-dire que Dieu se désole de la mort que l'homme fait entrer dans sa vie et dans le monde par le péché. Parce qu'il aime l'homme, Dieu n'est pas indifférent au mal et à la mort qui entre dans le monde par le péché de l'homme. Bien même Dieu n'étant rien altéré par le péché de l'homme, Dieu se désole des affres que le péché de l'homme fait entrer dans le monde et des douleurs qu'il cause à l'homme lui-même. C'est dans sa compassion pour nous que Dieu est altéré, que le cœur de Dieu est altéré. Mais ce n'est pas tout. Par l'incarnation, le Christ Jésus, le Verbe du Père, après une nature humaine, avec un cœur humain réel et concret. Et ce cœur humain est capable de souffrir et de ressentir comme le nôtre, puisque c'est un cœur humain réel. Donc dans son humanité, le Verbe de Dieu qui s'est fait chair est meurtri, altéré, par l'effet du péché dans le monde, par l'effet du péché qui est refus d'aimer et qui blesse la vie, les relations qui existent entre les hommes et entre l'homme et le monde. Le cœur du Christ est affecté par le péché comme notre propre cœur est affecté par le péché, et plus encore, j'allais dire, il en est plus encore affecté, parce que son cœur est pleinement ouvert à l'amour et pleinement lucide sur l'amour, alors que nous sommes, nous, souvent en partie aveuglés sur l'amour qui devrait être ou sur l'amour qui est blessé. Le Christ voit pleinement l'amour qui devrait être et donc voit aussi pleinement l'absence d'amour qui devrait se produire ou bien la défiguration de l'amour qui s'est produite. parce qu'il a la plus grande connaissance de ce que devrait être l'amour, il en est aussi d'autant plus affecté lorsque cela ne se produit pas et lorsqu'à sa place, c'est le péché qui advient. Retenons donc que le cœur divin de Jésus est affecté par compassion à ce qui nous arrive parce que Dieu aime l'homme, et que le cœur humain de Jésus est pleinement affecté par le nôtre, et plus encore parce qu'il est pleinement lucide sur l'amour qui devrait être. Abordons le deuxième point, le partage des trésors infinis de son amour. Tu nous prodigues les trésors infinis de ton amour. Ce partage se comprend d'abord comme une révélation. Nous recevons cet amour du Père par le Fils, puisque la prière s'adresse au Père, Seigneur notre Dieu. Tu nous prodigues, Seigneur notre Dieu, toi qui es notre Père, tu nous prodigues, donc dans le cœur de ton Fils, les trésors de ton amour. C'est l'amour du Père qui nous est partagé par l'amour du Fils, par le cœur humain de Jésus. Voilà que l'amour divin, par le cœur humain de Jésus, est partagé à notre propre cœur. Et s'il nous est partagé, cela a un deuxième effet, c'est-à-dire que le premier effet, c'est que nous en sommes les destinataires, nous en sommes les récepteurs, et le deuxième effet, c'est que nous sommes capables de le communiquer à notre tour. Vous voyez, de la même façon que le Fils qui reçoit l'amour du Père nous le communique, nous recevons donc un amour qui se communique. Donc recevoir l'amour du Père qui se communique par le Fils, c'est aussi accueillir cette capacité de partager cet amour qui nous a été communiqué, parce que cet amour qui nous a été communiqué est un amour fait pour se communiquer. Si je ne communique pas cet amour, ça veut dire que je n'ai pas bien compris ou je n'ai pas bien reçu cet amour jusque dans sa dimension de communication. Recevoir en vérité un amour qui se communique signifie que, à mon tour, je le communique. D'où l'importance, dans le système des cellules d'évangélisation, de l'oïkos. C'est le lieu, l'occasion de communiquer cet amour que Dieu a déposé en moi. C'est l'occasion que cet amour que Dieu a déposé en moi révèle son vrai visage, déploie son vrai visage en étant communiqué. Celui qui ne communique pas l'amour de Dieu, qui ne cherche pas à le partager, finalement, n'a pas compris l'une des dimensions de cet amour, ne l'a pas déployé, ne l'a pas découvert et peut-être ne le goûte pas. L'amour de Dieu est fait pour se communiquer et le cœur humain de Jésus nous prodigue les trésors infini de l'amour du Père, pour que nous le goûtions, pour que nous le partagions. En somme, le partage des trésors est fait pour que nous le recevions et pour que nous le communiquions. Troisième point d'attention, l'hommage permet qu'en lui rendant l'hommage de notre piété. Nous avons plus l'habitude désormais du sens figuré de l'hommage. Au sens figuré, c'est une espèce de soumission, de vénération en parlant des personnes à qui l'hommage est rendu. C'est une façon aussi de présenter notre respect, nos civilités. C'est également un don respectueux, une offrande. On fait hommage à quelqu'un de quelque chose. Au sens propre, l'hommage, c'était une promesse de fidélité et de devoir que le vassal faisait à son seigneur, que le vassal faisait à son suzerain. Donc lorsque nous entendons ce mot « hommage », nous ne devons pas seulement le comprendre comme la manifestation de notre attachement, la manifestation de notre affection ou de notre respect, mais aussi comme l'engagement à un devoir, à une responsabilité vis-à-vis du Seigneur. Et cette responsabilité, c'est la deuxième partie, c'est que nous rendions aussi les devoirs d'une juste responsabilité, les devoirs d'une juste réparation. Donc là, on voit que la dimension de responsabilité, de devoir d'engagement, que porte la notion d'hommage du fait de notre lien au Seigneur. C'est notre Seigneur Jésus. Mais alors, si le devoir porte sur une réparation, que faut-il entendre par cette réparation? Qu'est-ce que c'est que cette réparation? L'erreur serait de se placer d'un point de vue uniquement comptable, où l'on aurait un Dieu qui compterait en fait toutes les dettes et dont le seul objectif serait qu'elles soient remboursées. Et donc il aurait sa petite liste et il faudrait rembourser chacune des choses, parce que l'humanité ne serait jamais en mesure de rembourser. Malheureusement, nous sommes capables de créer plus de dommages que nous ne sommes capables de réparer par notre propre puissance. Donner un exemple tout simple, nous sommes capables de, par un meurtre, de faire perdre la vie à un homme, mais nous ne sommes pas capables de la lui rendre. La réparation ne s'inscrit donc pas dans une logique comptable où il faut apurer les dettes, mais dans une logique de salut. Celui qui a compris le salut offert par le Christ, celui qui a goûté le salut offert par le Christ, celui qui a été bénéficiaire du salut du Christ, veut en devenir participant, veut lui-même devenir acteur du salut, veut lui-même faire descendre l'amour de Dieu dans le monde, être participant de cette descente de l'amour de Dieu dans le monde, pour faire passer le monde de la mort à la vie, pour que là où la mort avait régné, la vie surabonde, pour que là où le péché avait abondé, l'amour et la miséricorde surabondent. L'homme a le désir de participer à l'œuvre du Christ, justement parce qu'il en a été le bénéficiaire et qu'il l'a comprise, et qu'il l'a comprise avec son élan. Pour le dire autrement, le péché est une ingratitude face à l'amour de Dieu, est un aveuglement face à l'amour du Christ. La réparation est le fait d'ouvrir les yeux sur cette ingratitude et les dommages qu'elle a causés, et de se mettre en route, de devenir participant pour combler en partie le déficit, on pourrait dire, de la réponse d'amour de l'humanité face à l'amour de Dieu. Seigneur, j'ai connu, j'ai reconnu ton amour pour le monde, j'ai reconnu que tu m'as aimé, que tu me sauves, eh bien avec toi je deviens sauveur, avec toi je répands cet amour qui sauve le monde, avec toi je me donne pour le monde, je viens à tes côtés pour vivre de cet amour pour le monde, puisque tu nous appelles à aimer comme toi tu aimes. La réparation n'est donc pas simplement le fait de rembourser ma propre dette, de rattraper le dommage que j'aurais personnellement causé, mais de participer à cette œuvre du Christ et engager ma liberté à faire descendre l'amour de Dieu, l'amour pour le prochain, sur ce monde qui en a été privé, sur ce monde qui a été blessé. Cette réparation a pris une forme toute particulière à travers la prière d'adoration. Seigneur, je reconnais que tu nous as aimés, je reconnais que tu nous aimes, et je viens répondre à cet amour, je viens me tenir devant toi, je viens à tes côtés, là où l'humanité s'est enfuie lorsque tu as été arrêté au jardin des Oliviers, eh bien aujourd'hui je viens t'adorer, je viens être présent, je viens reconnaître que tu nous aimes et que je veux être fidèle et que nous voulons être fidèles à tes côtés. Il y a un aspect de consolation sensible du cœur humain du Christ. Voyez, de la même façon qu'à Gethsémani, un ange de Dieu a été envoyé pour réconforter le Christ qui entre dans sa passion, c'est en Luc 22 au verset 43, eh bien celui qui vient en prière d'adoration devant le Saint-Sacrement, participe à cette œuvre de l'ange qui réconforte le cœur humain du Christ, saisi de frayeur et d'angoisse face à la passion qui l'attend. Nous venons justement dire notre amour, nous venons présenter notre amour et notre fidélité. Le Christ disait aux disciples qui s'étaient endormis, « Vous n'avez même pas pu prier une heure avec moi. » Eh bien, par notre prière d'adoration, nous venons nous unir à cet ange qui réconforte le cœur humain et sensible du Christ. La prière dépasse les frontières de l'espace et du temps. Il y a une vraie action vis-à-vis du cœur humain du Christ. Cette volonté de répondre à l'amour du Christ en étant présent, cette volonté d'être fidèle auprès du Christ souffrant, est quelque chose qui vivifiera notre amour et qui vivifiera à la suite du Christ notre capacité à aller au-devant de notre prochain, à être fidèle dans l'amour à notre prochain, alors même que cela peut être difficile. Je vous souhaite de bons échanges.